Chers auditeuristes, bonjour. Nous avons besoin de votre soutien. En tant que médias indépendants, nous nous efforçons de vous fournir chaque jour une information engagée. Cependant, maintenir notre indépendance éditoriale et notre qualité journalistique nécessitent des ressources. C'est pourquoi nous faisons appel à vous aujourd'hui. Votre contribution, aussi modeste soit-elle, peut faire une réelle différence. Elle nous permettra de continuer à vous offrir un contenu de qualité, sans compromis. Sachez que chaque don compte. Ensemble, nous pouvons protéger et promouvoir un journalisme indépendant et engagé. Pour faire un don, rendez-vous sur notre site internet popol-media.com ou cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Merci infiniment. Votre soutien est précieux.
Je pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Lâchez nos utérus.
C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au féminisme.
Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Show. Et pour ce nouvel épisode de Popol Show, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Mercier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Léa, merci
Comment vas-tu?
De m'avoir proposé.
Mais avec grand plaisir. Comment vas-tu?
Écoute, très bien. Voilà, un peu stressée, c'est la première fois que je participe à un podcast sur ces sujets, mais je suis ravie.
Et donc, bah,
merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Écoute, moi je travaille dans l'audiovisuel et le cinéma, je suis productrice indépendante. J'ai créé ma structure au moment de produire un premier documentaire, Un mois à la ferme, de Baya Bélanger pour Public Sénat. C'était en 2018, mais j'ai surtout un parcours de directrice administrative et financière auprès de dirigeants d'autres structures de sociétés de production ou de communication. Voilà, mais j'avais envie d'accompagner des auteurs qui travaillent sur des sujets qui me tiennent à cœur, sur un socle de valeurs qui sont, on va dire, plutôt humanistes hein, en termes de grandes catégories. Oui, du coup, j'ai créé cette société pour accompagner des auteurs qui avaient envie de mêler autant leurs engagements que leur art, autant le divertissement que la réflexion politique et sociale. Voilà.
Super. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets sur lesquels tu bosses peut-être actuellement ou pas?
Oui,
trop
tout à fait. En ce moment, j'ai un documentaire qui a été préacheté par France 3 Corse qui est assez fun. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de Zanza, une icône de la côte adriatique dans les années 70 et dont les femmes étaient complètement dingues. Des Norvégiennes, des Suédoises qui prenaient des vols charter pour passer leur été sur Arimini et rencontrer ce jeune homme à l'époque. Bref. Et c'est un prétexte pour Anne-Flore Triquillo et de raconter l'époque et de raconter l'émancipation des femmes à travers ce portrait croisé de leur ex-amant de l'époque. Voilà.
D'accord, ça a l'air intéressant, effectivement.
Ouais. Et du coup, oui, j'ai aussi en écriture un documentaire qui parle de la vie de Boulamsouk Zatoyfan, qui est une réalisatrice du Laos, enfin, originaire du Laos, qui est arrivée en France en 75, en même temps que des millions de boat people. Dans son documentaire, elle essaie de comprendre les conséquences de son absence de souvenir de son parcours d'exil pendant son enfance, puisqu'elle est arrivée en France à l'âge de 18 mois. Les conséquences de l'absence de cette mémoire, de ses souvenirs, dans sa trajectoire personnelle et artistique à travers une invitation au récit commun qu'elle tend à d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Voilà. Et le dernier, c'est une fiction, court-métrage, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Tamara Al-Sadi qui a été écrite, réécrite du coup par Mathieu Ponchel qui sera à la Réal et pour lequel on est en financement et en coproduction avec Nolita. Voilà.
Eh bien, super, que de beaux projets. Merci beaucoup, Isabelle. Deuxième invitée de ce plateau que vous connaissez déjà par sa plume dans Popple Post et ses chroniques internationales sur la première saison de Popple, Clotilde Lecause. Bonjour Clotilde, comment vas-tu?
Bonjour, salut, ça va.
Alors, les gens entendent pour depuis longtemps, les gens n'ont pas entendu ta voix.
Exactement, ouais, et je suis aussi un peu stressée parce qu'en réalité, c'est la première fois que j'interviens comme ça, que je n'ai pas une chronique préparée, voilà, et que je ne suis pas derrière mon écran d'ordi ou mon stylo bic. Donc, ça va.
Clotilde, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
Oui, bien sûr. Alors, je suis journaliste. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger et ça fait 3 ans que je suis revenue en France. J'ai habité aux États-Unis, au Liban, en Tunisie, au Maroc et beaucoup en Asie du Sud-Est. J'ai passé presque 10 ans entre la Birmanie et le Cambodge. Et du coup, j'ai aussi beaucoup bossé sur... le Vietnam, le Laos, je menais des projets régionaux pour des journalistes parce qu'évidemment j'ai voulu vivre en tant que journaliste pigiste à l'étranger pendant toutes ces années, autant vous dire que c'est pas une mince affaire et que très souvent ça nous amène à prendre d'autres chemins et donc je me suis spécialisée dans le développement des médias au niveau international et le but c'est d'accompagner des journalistes et des rédactions locales dans leur travail au jour le jour et puis j'ai un gros engagement au niveau de la liberté de la presse depuis des années puisque j'ai commencé ma carrière chez Reporters sans frontières que j'ai pas vraiment en réalité que je quitte jamais, enfin qui n'est jamais vraiment très loin de tout ce que je fais voilà.
Super, et bah écoute, ravi de t'accueillir. Et je le précise pour la petite anecdote qu'avec Clotilde, on s'est rencontrés dans un bar à Phnom Penh, au Cambodge. Voilà, et depuis, ça fait 10 ans. Donc, ouais, c'est marrant. Ça fait 12 ans, pardon. Ouais. Presque. Voilà. Enfin, troisième invitée, Léa Sabra. Bonjour Léa.
Enchantée. C'est la première fois.
Toi aussi, trop cool. Et bah oui. Écoute. Moi, c'est la première fois avec vous trois, donc ça compte aussi.
C'est vrai.
Comment vas-tu?
Je suis un petit peu impressionnée aussi, mais je suis très contente d'être là. Et voilà, ça me fait plaisir. Écoute,
ravie que tu sois là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, alors moi, j'ai un premier master en histoire de l'art et archéologie. Et j'ai travaillé sur le sujet de l'éclectisme et de la création interpromise de la naissance du sionisme à nos jours, sous la direction de Nathan Rera, qui est un spécialiste du génocide rwandais. Et ensuite, à l'époque, j'étais encore en province et j'ai décidé de monter à Paris après le Covid et de reprendre mes études encore pour faire un double master, cette fois-ci en communication et en création 360 pour pouvoir in fine mêler tout ça et travailler pour des galeries, des musées. Mais je suis actuellement dans un stage dans une agence de production. Je peux un petit peu découvrir le milieu de la production et c'est un vrai plaisir pour moi de mêler toutes ces connaissances.
Eh bien, trop cool. Ravie de vous avoir toutes les trois sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de 2 thèmes d'actualité, une fois n'est pas coutume, hein, chez Popple. On va commencer par le discours de Gabriel Attal à Viry-Châtillon et ensuite, on enchaînera sur la convocation de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Oui, pour celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue. C'est les sujets super fun d'actualité. Ce n'est pas notre faute, hein, on nous les impose. On aimerait que ce soit un peu plus gai, mais voilà. C'est parti. Depuis Viry-Châtillon, là où a été mortellement agressé un adolescent au début du mois d'avril, le Premier ministre a prononcé un discours où il a exposé ses pistes pour lutter contre ce qu'il appelle une forme de violence déchaînée, morbide et sans règles. Le discours et les pistes évoquées font preuve d'une certaine forme d'obsession pour l'autorité de la part du Premier ministre qui a affirmé,
que, j'ouvre les guillemets, sa boussole, c'est l'impunité zéro, je referme les guillemets. Pour ce qu'il appelle ce sursaut d'autorité, Gabriel Attal propose notamment de sanctionner les parcours scolaires des jeunes qu'il qualifie de perturbateurs, de scolariser les collégiens de 8h à 18h en commençant par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaire, et de sanctionner les parents défaillants. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ces annonces vous surprennent ? Et d'après vous, il y aurait-il peut-être, de la part du gouvernement et de la majorité présidentielle, une volonté de draguer toujours plus un électorat conservateur dans la perspective, pourquoi pas, des élections européennes ? Je sais, c'est une question orientée. Isa, qu'en penses-tu ?
La République contre-attaque quand même. Pardon, on ne peut pas prendre le titre d'un Star Wars et annoncer des mesures répressives à l'égard des jeunes, finalement. Enfin, moi, c'est mon premier senti. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ouais, c'est quoi la mission de l'éducation, en fait ? C'est quoi éduquer des jeunes ? On parle d'enfants, hein. Alors oui, il y a eu des agressions. Oui, il y a une montée des violences qui est factuelle, qu'on peut documenter. On parle de mesures punitives à un moment où on devrait peut-être parler de moyens qu'on met dans l'éducation, des postes qui sont supprimés, de la fatigue du corps enseignant. Qui n'a pas l'impression d'être entendu. Je trouve que c'est assez démoralisant. Je rappelle aussi que le Covid, c'était il n'y a pas si longtemps, que depuis, il y a eu des articles, des études sur la santé mentale des jeunes, que le nombre de suicides chez les jeunes a augmenté de façon effarante. Moi, j'aimerais les entendre plus sur ces questions-là. L'autre question, c'est quelles perspectives ils ont, ces jeunes, aujourd'hui, entre la crise environnementale, le réchauffement climatique, la crise politique, la crise sociale. Je pense que l'autorité, c'est important, c'est intéressant, mais je pense qu'aussi on a le devoir de les guider, tous ces jeunes, si on veut les préparer au monde qui les attend, finalement. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez
claire. Ouais. Non, c'est intéressant, effectivement, quelle est la mission de l'éducation. Et puis, ça explique aussi le mal-être des enseignants et enseignantes qui, finalement, ne se retrouvent pas, qui ont cette vocation, elle et eux, cheville au corps, qui ne se retrouvent pas, effectivement, dans un discours toujours plus autoritaire de la part du gouvernement, qui n'a plus du tout en ligne de mire, en fait, effectivement, cette mission d'émancipation à travers l'éducation. Oui, effectivement, tout ça, c'est pas très glorieux. Claude, qu'en penses-tu, toi ?
Alors, en effet, moi, j'avoue que le discours, j'étais évidemment pas très surprise en entendant le degré de conservatisme qu'on peut entendre de la part du gouvernement. Après, j'ai quand même eu un moment où je me suis dit, mais cet homme est quand même plus jeune que moi. Il fait aussi partie d'une dynamique. Il est jeune pour être Premier ministre, on l'a déjà dit, on l'a redit. C'est vrai, c'est le plus jeune. Et avoir, honnêtement, un homme de 35 ans qui répond à la violence par la violence, qui dit, comme ils sont perturbateurs, il faut qu'on y aille, qu'on contre-attaque. Moi, ça me fait beaucoup penser, et je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas fait, mais à ce que dit Hélène Devinck dans Libération, quand elle publie, il faut que je retrouve le titre, mais elle a publié une tribune dans Libé, on ne lutte pas contre la violence des enfants par la virilité toxique. Moi, c'est juste ça qui est arrivé après le discours. Effectivement, je suis complètement d'accord. Et ça fait vraiment penser à ce concept en plus qui, quand tu es parent, on t'en parle assez facilement maintenant, mais ce concept de pédagogie noire qui veut faire en sorte que les enfants soient juste dociles et malléables, et puis les enfants, ils obéissent aux adultes, point barre. Les enfants n'ont pas de fonction. Hein, et voilà, ils sont là pour répondre à des attentes bien précises des adultes. Et vraiment, j'ai retrouvé ça là-dedans. Donc, surprise non, mais honnêtement, c'est pas parce que j'étais pas surprise que j'étais au final pas choquée. Parce que je trouve vraiment que c'est choquant d'arriver avec ce discours-là. Et évidemment, ça passe. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, sur ce que disait Isabelle, peut-être qu'on pourrait quand même essayer de... Puis en plus, les élèves perturbateurs, alors on attend la définition d'élèves perturbateurs parce que clairement, il y a la notion de handicap dedans. Donc en fait, il y a plein de choses qui...
Ouais, c'est ce qu'a dit, Nicole Belloubet en précisant la notion. Elle a dit qu'effectivement, ça pouvait concerner des enfants en situation de handicap. Donc très important.
Oui, ouais. Parce que dans une classe, du coup, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner parce que en réalité, il y a des élèves qui ont des besoins qui correspondent à ce qu'ils sont, aux êtres qu'ils sont. Et voilà. Donc, je trouve que c'est quand même très... Je suis consciente que dans une société, tu ne peux pas forcément prendre le besoin d'un individu spécifique et que tu as besoin de trouver des mesures qui sont un peu applicables. Mais intéressez-vous aux les problèmes sont là, ils sont signalés, ils sont dénoncés depuis des années. Voilà, juste ne vous trompez pas de message en fait, parce qu'il y a des messages qui vous sont adressés depuis des années que vous n'écoutez pas, et en essayant juste de standardiser votre processus de pensée et en disant bah du coup on va faire comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Et pour finir, ça m'a aussi fait penser à cette uniformisation qu'on fait dans les faits. Aujourd'hui, il y a des élèves qui vont porter des uniformes sous prétexte qu'il faut que tout le monde soit égal. Mais l'uniforme n'a jamais permis de réduire l'inégalité ni sociale ni intellectuelle entre les élèves, en fait.
Sans compter que, bien entendu, les enfants, les élèves en situation de handicap sont assez mal soutenus, en fait, hein, voire pas soutenus du tout par notre système éducatif. Il manque profondément d'accompagnants, les AESH qui sont aussi très maltraités par l'État, mal payés, etc. Donc il n'y a vraiment aucun effort qui est fait de la part du gouvernement pour soutenir ces élèves-là plus particulièrement. Donc d'avoir, pour moi en tout cas, une ministre de l'Éducation qui en plus vient dire que ces élèves seraient potentiellement un problème dans les salles de cours alors qu'aucun moyen n'est donné pour qu'ils puissent, il et elle puissent suivre un enseignement au même titre que tous les autres. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très choquant. Enfin, moi, ça m'a vraiment énormément choquée. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière tout ce concept de perturbateur voilà. Et puis, quel type de citoyens et citoyennes on est en train de soutenir, en fait, et de promouvoir ? C'est-à-dire que des enfants qui sont élevés avec des logiques d'autorité. Je veux dire, mais comment on leur donne envie de participer à un projet commun, si ce n'est effectivement de les contraindre à la docilité. Enfin, ça, moi, ça ne me donne pas envie, quoi. Je me dis, si j'avais des enfants, je n'aimerais pas qu'ils soient éduqués comme ça, et qu'on les rende uniquement dociles. Mais ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Clotilde, pardon.
Oui. Bon, déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, j'ai deux enfants. Et clairement, ils sont jeunes, hein, mais ne serait-ce que la question des groupes de niveau au sein de l'école, c'est aussi un problème de faire un niveau faible, moyen et très bon. Enfin, bref, outre la discrimination qu'il y a déjà entre les élèves eux-mêmes sur un système de notation qu'on a toutes plus ou moins subies, je ne sais pas du tout où vous avez été scolarisées ni quoi que ce soit, mais on est quand même très déjà là-dessus, sur la performance, sur les félicitations du jury, sur voilà. Donc, si on rajoute des groupes de niveau à l'organisation, moi, ça me fait un peu peur pour la scolarisation de mes enfants, hein, pour être honnête. Mais c'est surtout que je voulais rebondir sur un autre fait, qui est quand même que le gouvernement a annoncé qu'il allait faire 307 millions d'économies sur le budget alloué notamment au handicap, et à la solidarité et à l'insertion. Et en réalité, donc on va faire des économies sur ce poste-là, et par contre, on va contre-attaquer avec la République qui contre-attaque. Il faut absolument mettre des élèves en internat parce qu'ils sont perturbateurs. Mais qu'est-ce que ça dit en réalité de la vision de ce gouvernement de l'éducation? Et puis moi, je ne suis pas rassurée non plus. Alors, on s'en fout un peu de mes sentiments, mais c'est juste que de voir qu'un Premier ministre qui dit que au final, l'éducation, ça restera chez moi parce que j'en viens et que ça me tient à cœur. Et bien, si c'est comme ça que ça te tient à cœur, je ne suis pas très emballée par le projet, moi.
Non, c'est clair. Effectivement, je rappelle pour nos auditoristes que lorsque Gabriel Attal a été investi à Matignon, il a dit qu'il emmenait avec lui le dossier de l'éducation, puisqu'il sortait de c'était son portefeuille lorsqu'il a été nommé. Léa, qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces discussions?
Moi, ça m'interroge parce que j'ai été à la fois surveillante en lycée à plusieurs reprises et éducatrice dans le secteur du handicap pendant 6 ans. Et que de ce fait, c'est des questions qui me touchent beaucoup et qui m'interrogent, parce que quand on met l'accent sur les difficultés physiques et parce qu'il y a handicap, quand on parle de perturbateur, on se rend vraiment compte de là où est mis l'accent, et c'est très grave parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'inclusif ni même d'incluant. On n'est pas du tout dans le fait de laisser les personnes être elles-mêmes. On doit se conformer sur un plan physique. On n'est pas sur la diversité, la pluralité, tout ce qu'on aime dans l'école française, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu inquiétant. Et pour revenir sur le point des budgets, y a déjà une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, Bachelot sortait des budgets qui étaient très, très attendus. Le secteur du handicap a fait ce qu'il a pu avec ce qui lui a été donné à ce moment-là. Et aujourd'hui, on cumule plus de 20 ans de retard par rapport à un pays comme le Canada. Mais on va cumuler combien de retard à ce rythme-là si on continue de cacher sous le tapis ce qu'on n'a pas envie de voir parce que ce n'est pas physiquement ce qu'on a envie? Non, mais il y a un problème là, ce n'est pas le vivre ensemble à la française là.
C'est sûr, sur la promesse, on est loin du compte. Et sur la mission de l'éducation, à proprement parler, comme en parlait Isabelle, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça dit de la vision de l'éducation de la part du gouvernement?
Je pense que ça dit qu'il faut se conformer au lieu de cultiver la liberté d'apprendre, de se tromper. Je trouve que ça induit ça aussi, en fait. On n'a plus le droit de se tromper, on n'a plus le droit de... Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans et que j'étais au lycée, j'étais pas forcément toujours d'accord avec tout ce qui se disait. Et ça ne veut pas dire que je voulais perturber, déranger. Ça veut dire que j'avais des choses à exprimer. Et ça va être un peu facile aussi de pouvoir... reprocher dès que les gens vont sortir un petit peu des rangs ou de la case, quoi.
C'est clair, il y a une volonté de mettre tout le monde dans le même cadre, et une volonté de conformisme qui est assez inquiétante, mais par la force par ailleurs, hein, par l'autorité, puisqu'en fait c'est ce qui a été annoncé. Et c'est vrai que c'est quand même... Tu es d'accord, toi, quand on dit que finalement, Attal étant le plus jeune Premier ministre qu'on ait eu et un des plus conservateurs, tu es d'accord avec ça?
Qu'il est le plus jeune, oui, là, effectivement, c'est un fait. Je crois qu'on peut faire une évidence. Je crois qu'on est à peu près dans le même âge. Mais et là, c'est pire que conservateur, en fait. C'est... Parce que... C'est presque pire que ce qui a déjà pu être fait, donc je ne vois pas ce qu'il conserve là, en fait. C'est créer quelque chose de nouveau qui n'est pas... Enfin, on essaye de créer du nouveau avant du réchauffer, mais on est... Je ne sais pas si je le qualifierais de conservateur finalement, parce qu'il se veut à la fois un peu innovant tout en surfant sur des choses qui n'ont déjà pas marché il y a des années, donc... Je sais pas, j'hésite entre faussement innovant et un peu conservateur sur les bords, mais enfin, J'ai un peu du mal à qualifier cette posture qui est justement ambiguë parce qu'on tient finalement un double discours. Quand on dit qu'on veut éduquer la jeunesse et qu'en même temps on veut lui taper dessus, on n'est pas dans de l'éducatif, donc on est dans du répressif. Effectivement.
Oui, ça c'est assez classique du gouvernement, malheureusement. Merci beaucoup à toutes les trois, si vous le voulez bien. Isa, tu voulais rajouter quelque chose, pardon.
Oui, je voulais dire, si on doit sortir des phrases et des titres de films, j'ai l'impression qu'ils construisent une classe d'âge qui se tient sage, pour un pays qui se tient sage. Je rebondis sur les dernières phrases de Léa. Mais oui, au lieu de réinventer une façon d'éduquer les jeunes au regard des défis qui les attendent, finalement, on propose des mesures assez réac, je vais le dire. Hein, voilà. Le service militaire, il a disparu à peu près au moment où moi je passais au lycée. La journée d'appel, elle a disparu il y a un petit moment. Et là, on parle de remettre au goût du jour c'est un service militaire, là, le SNUD, ou je ne sais plus comment ça s'appelle.
Service national universel.
Ouais, voilà, l'uniforme. Et oui, il y a une volonté d'uniformiser la pensée et puis les réactions des jeunes. Et évidemment, je condamne la violence. Voilà, je ne voudrais pas qu'on fasse dire ce que je ne dis pas. Mais et on condamne avec un discours guerrier qui est de plus en plus présent dans les prises de parole du gouvernement. Et moi, ça me fait flipper. Et en particulier,
ouais, très martial, ouais.
aux jeunes. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, j'ai un enfant aussi, et il y a quelque chose, alors qui est beaucoup plus jeune, 6 ans et demi, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, je trouve, quand il s'agit de l'éduquer, c'est l'incohérence et la dissonance. Toi, tu vas faire ça, mais moi, je vais faire autre chose. Et là, on parle de jeunes qui sont au collège, à qui on va demander de prendre leur responsabilité, d'assumer des erreurs tout au long de leur vie, là, cette espèce d'inscription dans leur parcours scolaire de fauteurs de troubles. Quand est-ce qu'on tient?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La classe politique responsable, combien de personnes sont accusées ont été jugés pour détournement de fonds publics, harcèlement, enfin pour des faits avérés et violents. Quand est-ce qu'on les tiendra responsables, eux, en fait? Je trouve que c'est compliqué d'accepter ce double discours et cette justice à double vitesse.
C'est clair, et ça envoie vraiment pas un bon message, ça c'est sûr. Merci beaucoup. On va passer au deuxième thème, si cela vous convient. Je voulais qu'on parle ensemble de la convocation de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Mardi dernier, le 23 avril, Mathilde Panot, députée et présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a annoncé qu'elle avait été convoquée par la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. La convocation semble se baser sur un communiqué de presse publié par son parti le 7 octobre dernier. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a réagi publiquement à cette convocation en ces termes. Deux points, ouvrez les guillemets. J'alerte solennellement sur cette instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques, refermez les guillemets. Je précise d'ailleurs que Mediapart a révélé que 385 signalements ont été transmis à la justice entre le 7 octobre et le 31 décembre 2023 et qu'une enquête a été lancée dans presque tous les cas. En effet, cette convocation s'inscrit dans une série de convocations pour le même motif de militants et militantes, et c'est notamment le cas de Rima Hassan qui a également été convoquée le 19 avril dernier. Qu'est-ce que cela dit, d'après vous, de l'état de notre démocratie et du débat plus politique et public en France? Clotilde, qu'en penses-tu?
J'en pense que je suis assez triste, en fait, de voir ça. Et surtout quand c'est confirmé par Amnesty International, qui explique hier que l'état des libertés civiles en France est quand même assez dramatique, que ça recule, que ça ne fait que reculer, que c'était très douloureux d'écrire un chapitre sur la France. Je pense que c'est d'autant plus triste qu'en réalité, quand on le voit un peu au niveau international, ça fait très longtemps que, ça fait très longtemps que la France se tait sur les questions de liberté d'expression, liberté civile à l'étranger. Il y a pas mal d'ambassades qui s'expriment plus sur ces questions-là dans certains pays. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on voyait depuis quelques années. Et là, mais en France, on arrivait encore à avoir ce bastion un peu de liberté d'expression, et à tel point qu'on était même critiqué sur « Ah bah voilà, quand c'est chez vous, vous dites quelque chose, mais quand c'est à l'extérieur, vous dites plus rien. » Bon bah là, bah, même quand c'est chez nous, on dit plus rien. Donc ça va devenir un peu problématique, mais ouais, j'en pense que c'est décevant. Et c'est décevant parce que c'est vrai que bon... moi, j'ai 40 ans, je n'ai pas du tout été éduquée dans cette idée de la France qui se tait. Et j'étais plutôt fière aussi de voir qu'on était capable de se lever, de taper un peu du poing sur la table, de dire « là, on n'est pas d'accord ». Et en fait, là, on a l'impression qu'il y a un sujet qui met… Il n'y a plus rien qui reste, il n'y a plus rien qui est là, il n'y a plus rien qui tient debout. C'est… Ça me fait beaucoup penser à une réaction de panique aussi, hein. Mais du coup, montrer que tu paniques en même temps, c'est très, ouais, voilà, c'est triste, je trouve.
C'est Edoui Plenel qui a écrit un excellent parti pris, hein, que je vous invite à lire dans Mediapart, sur justement comment la liberté d'expression est bâillonnée lorsqu'il s'agit de défendre, en l'occurrence, pour les militants et militants pro-palestiniens et palestiniennes, parce que c'est pas n'importe qui, hein, qui sont visés par ces enquêtes et signalements. On peut s'inquiéter effectivement de voir comment aussi la marche antiraciste a failli être interdite, que la préfecture de police de Paris voulait l'interdire, mais que finalement le tribunal administratif a dit non, en fait, on va pas interdire ça. Moi, ça me fait vraiment peur, parce qu'en fait, on sent qu'il y a une certaine... et c'est ce que démontre d'ailleurs Edoui Plenel dans ce parti pris, il y a une certaine intransigeance, mais qui met même plus de l'intransigeance, en fait, ça va encore plus loin que ça, par rapport aux militants et militantes qui dénoncent en fait les interventions du gouvernement israélien à Gaza, etc. Et c'est partout, sans compter qu'il y a aussi du cyberharcèlement qui est très très violent. Donc moi, je trouve que c'est assez ciblé, en fait, et c'est aussi ça qui m'inquiète, hein. c'est pas anodin. Léa, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, j'ai le sentiment que c'est un phénomène qui est en train de se généraliser, parce qu'on parle là des gros noms et des gros cas qui ont pu arriver avec Panot, mais c'est aussi arrivé à des représentants de petits comités comme par exemple à Poitiers. On a Sylvette Rougier qui est la directrice du comité France-Palestine et qui s'est retrouvée il y a quelques semaines également convoquée pour le même motif, alors que c'est une femme qui est investie pour la paix depuis plus de 20 ans, quoi. Et ça pose question, et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans une période où les gens vont être amenés à se positionner, et que on est en train d'adduire que si on va du côté de ceux qui soutiennent l'opprimé, on est du côté des terroristes. Enfin, ça fait peur, quoi. Mais plutôt que de dire qu'eux, ils ont peur, ils préfèrent qualifier des gens qui œuvrent corps et âme pour la paix de terroristes. C'est quand même très, très, très inquiétant.
Oui, parce qu'il y a une stigmatisation, en fait, des personnes qui soutiennent le peuple palestinien, en partant du principe que de toute façon ils sont tous pro-Hamas, alors que c'est pas du tout le cas. Mais oui, effectivement, c'est particulièrement inquiétant. On a vu aussi comment ça se passe dans les universités, hein, les débats qui aussi sont interdits, etc., etc. Isabelle, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça?
En fait, pardon, mais j'ai pas hyper bien suivi toute cette affaire. Voilà, ça, je préfère le dire. Je trouve que d'ailleurs, on est enseveli sous une tonne d'infos, de débats, et qu'effectivement, comme le disait Léa, il faut se positionner. Enfin, il y a une espèce d'exigence à prendre la parole rapidement via les réseaux sociaux, donc ça empire. En plus, on peut s'exprimer en 180 caractères sur certains. Donc, ça réduit la possibilité d'avoir une pensée complexe, détaillée, approfondie sur des sujets qui pourtant le sont. Voilà, ça, je pense qu'il faut absolument que les gens qui ont accès à la parole, qui ont accès à des plateformes, prennent le temps de l'analyse, y compris émotionnelle, avant de prendre Twitter et les réseaux et le micro pour faire des discours. Sinon, on ne s'en sortira pas, en fait, parce que on est sur de la surenchère après. C'est à qui sortira la meilleure phrase choc pour finir un titre de je ne sais quel truc. Voilà, ça c'était la première chose que j'avais à dire. Et la deuxième, c'est oui, effectivement, il y a des alertes sur le fait qu'on est en perte de vitesse sur la liberté d'expression en France, qui est flippante au regard de ce qui se passe. Et quand je disais une classe qui tient sage, je trouve qu'il y a une sorte de continuum qui se fait sur entrer dans le rang, mais alors tout de suite, dès la primaire, dès le collège, pour y rester bien longtemps derrière. C'est un peu le parallèle que j'aurais envie de faire entre ces deux sujets.
Oui, c'est vrai, c'est habile de faire un parallèle entre ces deux sujets, t'as raison. Clotilde, tu voulais compléter.
Pour rebondir sur ce que dit Isabelle, et je suis entièrement d'accord aussi, et il y a un parallèle qui est intéressant. En réalité, alors je vous parle de mon expérience où je reviens en France il y a 3 ans, hein, et où en fait moi j'ai vu la France de l'extérieur pendant très longtemps. Et en réalité, je crois que ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est de voir que au moment des Gilets jaunes, il y a déjà eu pas mal de choses en ce qui concerne les restrictions de liberté et la liberté d'expression. Après, c'est le Covid, où mine de rien, ça a aussi touché les libertés civiles. Alors, évidemment, de se déplacer et tout ce que tu veux, mais il y a un impact, et en tout cas sur une manière de faire en sorte que les citoyens et citoyennes rentrent un peu plus dans le rang, en tout cas apprennent. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a aussi pris cette docilité, qu'on a fait, ouais, bah, en fait, on n'a pas le choix, on y va et tout. Et que mine de rien, ça continue. Et c'est une sorte, effectivement, de continuum qui a démarré il y a des années, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que ça. Alors, certes, sur des sujets très spécifiques et très différents. Mais ouais, qu'il y a une sorte de continuité.
Effectivement, il y a. Vas-y, je t'en prie, Isa,
J'ai
tu
l'impression que
voulais.
ça avait commencé avec Nuit Debout. J'habitais à Répu à l'époque et j'étais hallucinée parce que c'était complètement. Les gens ne faisaient rien d'autre que d'être assis par terre de remuer les mains quand c'était d'accord ou pas d'accord. Enfin, c'était vraiment de la désobéissance civile pacifique et pour autant la répression policière a commencé à ce moment-là. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien citer le film Le règne animal. À un moment, le personnage de Romain Duris dit désobéir, c'est ça le courage aujourd'hui. Voilà, ça me fait penser à ça. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas questionner ce qui est en train de nous arriver.
Tout à fait. Et puis questionner aussi le récit dominant, parce qu'en fait là, dans ce dont on est en train de parler, et plus particulièrement du coup la convocation de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme, c'est ça en fait. Vous êtes en train de dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et surtout vous êtes en train de contredire ce qu'on a. Enfin voilà, vous êtes en train de contredire le récit dominant, le récit qui est accepté dans la majeure partie des médias et aussi par nos responsables politiques. Donc c'est aussi ça. Enfin, voilà, il y a un enjeu de contrôle de la liberté d'expression qui est quand même particulièrement inquiétant. Et effectivement, ce n'est pas nouveau, comme tu le rappelles, Clotilde, et ça remonte depuis des décennies. Encore une fois, voilà, je vous invite vraiment à lire ce parti pris d'Edoui Plenel qui revient sur des décennies en fait, de glissement particulièrement inquiétant à cet égard. Léa, voudrais-tu ajouter quelque chose avant qu'on passe à vos infos, à vos actus ?
J'aurais juste ajouté que des comportements répressifs envers des étudiants et des universitaires me rappellent étrangement des comportements qu'il y avait aux États-Unis à l'époque de la guerre au Vietnam, et que ça rappelle des heures assez sombres de l'histoire, et que j'espère qu'on va s'en rappeler suffisamment tôt pour ne pas réitérer des choses affreuses.
Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos vues, vos avis, vos réflexions sur ces deux sujets. Maintenant, on va parler de ce dont vous vouliez parler, vous. Clotilde, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Moi, ça va rester dans le journalisme. Hein. Je voudrais juste parler un peu de la situation de... Et puis aussi de donner un gros coup de cœur, mais les situations des journalistes en exil, parce qu'il y en a de plus en plus, et qu'on le voit, c'est très compliqué aujourd'hui d'exercer ton métier dans des zones de conflit. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, vu l'intensité vu l'intensité et la proximité géographique aussi des conflits. Il y a beaucoup de journalistes qui doivent quitter chez eux aussi parce que c'est la guerre, mais parce qu'ils sont aussi menacés par ce qu'ils écrivent. On en a en France, on en a dans toute l'Europe, et voilà, c'était juste pour en parler, pour parler un peu de ce qu'ils font. À Paris, en France et à Paris, on a une initiative qui est une première mondiale et qui existe depuis des années maintenant, mais qui s'appelle la Maison des journalistes, et qui en fait offre un logement à des journalistes en exil, et qui permettent aussi de les aider à remplir des dossiers pour des demandes d'asile. Voilà. Elle est évidemment trop petite, hein, cette maison, on imagine bien, mais au moins elle mérite d'exister. Et voilà, je voulais juste saluer le travail qu'ils font, parce qu'au final, malgré tout ce qu'ils peuvent traverser dans leur vie, ils continuent à faire leur boulot pour des médias qui sont soit basés en Europe ou ailleurs. Et au travers de ce que je fais aujourd'hui, je travaille pour les Assises internationales du journalisme, et je suis chargée de leur développement international. Donc, je suis amenée à être pas mal en contact avec beaucoup de journalistes qui étaient d'abord dans leur pays, qui maintenant ont décidé de partir. Et ils ne savent faire que ça, du journalisme. Donc, autant vous dire que France Travail et les formations qu'on peut leur proposer, ce genre de choses, c'est même pas le sujet. Et quand on est journaliste, on sait être journaliste, et puis c'est ce qu'on veut faire. Donc, ils continuent. Et honnêtement, moi, j'aimerais beaucoup que certains médias un peu mainstream, ou en tout cas qui parlent à une majorité de la population, même si ici aussi l'audience est en train de se morceler, mais voilà, qui fassent appel à ces journalistes. Parce que c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils parlent pas français. Et en plus, qu'ils ont des très bonnes analyses, que parfois ça ferait énormément de bien qu'on puisse les entendre.
Absolument, au lieu de se regarder le nombril. Merci beaucoup, Clo. Isabelle, de quoi voulais-tu nous parler ?
De culture, voilà, et de bataille culturelle. Quand j'ai vu ce qui se passait en Argentine, au niveau du budget, qui va être complètement annulé. Pour les Antilles. Quand j'ai vu qu'en Argentine, le gouvernement faisait des coupes budgétaires effarantes au niveau des institutions culturelles, forcément, j'ai pensé à ce qui se passait ici. Enfin, pour l'instant, ça va. Moi, j'ai fait partie longtemps du collectif 50-50 en tant que trésorière, et je trouve que c'est une asso qui fait un travail formidable pour la diversité, la parité et la lutte contre les VHSS dans l'industrie. La bataille culturelle, pour moi, elle est importante dans le sens où, comme l'éducation, elle contribue à forger les mentalités, à nous permettre de se poser les bonnes questions, d'envisager aussi un futur plus désirable. Et je pense à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Au revoir Simone » et qui m'a apporté une véritable bouffée d'air et d'optimisme. Non, mais c'est vrai.
Merci.
Par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. Et ce que j'en ai retenu principalement, c'est cette opposition que fait l'autrice très talentueuse.
qu'on ne va pas nommer.
qu'on ne va pas nommer, puisque tout le monde la connaît, n'est-ce pas, Léa Chamoncel ? Ouais, l'opposition que tu fais entre le pouvoir aujourd'hui, entre les mains des politiques, qui est un pouvoir essentiellement de dominer, versus le pouvoir d'agir, qui est entre nos mains à nous, aux mains des associations, comme celle que Clotilde a mentionnée, auprès d'ONG. Et puis j'invite tout le monde, du coup, à rejoindre, à participer à sa mesure, à cette réflexion, à cette bataille culturelle, et qui est une bataille des valeurs, qui est nécessaire en plein backlash, en fait, hein, dans un backlash énorme.
Ouais, tout à fait. Backlash permanent. C'est un peu ce qu'on a l'impression de subir au quotidien, c'est clair. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour le clin d'œil. C'est trop gentil. Et toi, Léa, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Moi, j'aurais aimé raconter une petite histoire qui remonte à 2018. Donc, je tiens à préciser que je me suis rendue en Israël, en Cisjordanie et en Palestine occupée en 2017. Que j'étais présente à Jérusalem pendant les attentats sur l'esplanade des mosquées et que je condamne de fait tout acte de nature terroriste ou même liberticide. Donc il faut savoir que moi j'ai des amis dans les deux camps, à la fois en Israël et en Palestine occupée, et que je souhaite la liberté de chacun d'entre eux sans discrimination aucune. Les uns sont sous les bombes et comptent leur mort depuis des mois et pour pas dire des années, tandis que les autres étaient présents au festival qui a subi des actes terroristes abjects et impardonnables le 7 octobre 2023. Et que aujourd'hui, pendant que mes amis palestiniens ont peur de mourir à tout moment, les copines de mes copines israéliennes sont soit mortes sous les balles du Hamas, soit toujours en otage en train de se faire torturer, voire violer à l'heure où on parle. Et que je voulais poser le décor de ce qui me concerne avant de raconter mon histoire. Donc le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui nous ramène en février 2018 à un étudiant palestinien de 22 ans qui a fait ses études de médecine en Turquie, rentre à Jérusalem pendant les vacances scolaires pour voir sa famille. Le jeune Motassem Abbassi est alors chargé par son père d'accompagner son frère qui travaille dans la construction sur un chantier dans la ville d'Ashkelon, sur les territoires israéliens. Il faut savoir que Motassem vient d'une famille relativement aisée de Jérusalem et qu'il est suffisamment importante pour avoir pu retrouver leur maison après la création d'Israël et la Nakba de 1948, c'est-à-dire lorsque les Palestiniens ont dû fuir leur domicile par peur de vivre des représailles et des massacres. De par son statut relativement privilégié pour un Palestinien, Motassem, on peut dire que Motassem, en une certaine mesure, ne se sent pas particulièrement concerné par ce qui relève des problèmes politiques. Par exemple, il a un passeport qui lui permet de voyager, certes pas dans l'espace Schengen, mais il peut quand même sortir d'Israël et aller étudier en Turquie, ce qui n'est pas donné à tout le monde là-bas, notamment à Gaza. Motassem rêve de devenir cardiologue pour sauver des vies sans parti pris nationaliste. Il est fier de dire qu'il aspire à guérir autant les Israéliens que les Palestiniens. Il parle d'ailleurs couramment l'hébreu et envisage d'exercer en Israël à l'avenir afin d'être près de sa famille. Enfin bref, il veut vivre sa vie simplement et réussir sa carrière en faisant fi de la politique. Sauf que le 6 février 2016, alors qu'il travaille sur un chantier israélien, une machine qui n'est pas aux normes de sécurité lui tombe sur la tête. Il faut dire qu'en Israël, on n'a pas tout à fait les mêmes droits qu'en France, notamment en termes de sécurité au travail, et surtout quand il s'agit de travailleurs palestiniens. Et après 3 jours de coma, Motassem ne se réveillera pas. Il succombe à ses blessures et décède le 9 février 2018. Outre le fait que sa famille rencontrera des difficultés à récupérer le corps du fait que son décès a lieu en territoire israélien et qu'ils devront payer pour le récupérer, il faut savoir qu'en revanche, c'est le 5e à décéder de la sorte en un mois. et que ça arrive très régulièrement en Israël. Et que bon nombre de Palestiniens et d'Israéliens manifestent leur indignation à ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux depuis des années. Motassem, je le connaissais très bien. Parce que ce jeune homme curieux, volontaire, jovial, qui parlait cinq langues et qui aimait rire et chanter la vie, bah, c'était mon amoureux. Et je tenais à partager son histoire avec vous, pour ne pas oublier que malgré son silence face aux injustices qu'endurent tous les Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne, par peur des répercussions que cela peut avoir sur sa propre vie et sa famille, et malgré son soutien à la construction du rêve sioniste qui s'est animé comme un golem, eh bien, tout ça ne l'aura pas épargné. Son silence par peur des représailles. Je le brise pour rappeler que même si on pense défendre nos intérêts personnels en ne faisant aucune vague vis-à-vis des politiques dévastatrices de certains gouvernements, pour continuer à vivre sa vie sans le moindre souci, eh bien Motassem en est malheureusement la preuve, on meurt quand même. On meurt parce que le monstre du capital En Marche ne se soucie pas de ceux qui l'aident à bâtir son rêve. Je ne parle volontairement pas d'utopie parce que Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, le disait lui-même. Il ne s'agit pas d'une utopie en ce sens qu'il savait que son rêve allait se réaliser, même déjà au XIXe siècle, et qu'il deviendrait réalité. Et effectivement, il l'est devenu. Mais nous, on meurt, même quand on a appris à se taire. Parce que de toute façon, les gouvernements n'écoutent pas ce que nous, le peuple, on a à dire quand on les appelle à l'aide et qu'on leur demande la paix. La réalité, c'est que les politiques en place détournent les yeux lorsque la population appelle au cessez-le-feu. Et je souhaiterais conclure très rapidement avec un extrait de la conférence de Zimmerwald de 1915. Aucun sacrifice n'est trop grand, aucun fardeau trop lourd pour atteindre ce but, le rétablissement de la paix entre les peuples. Ouvriers et ouvrières, pères et mères, veuves et orphelins, blessés et mutilés, à vous tous qui souffrez de la guerre et par la guerre, nous vous crions, par-dessus les frontières et par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
Merci beaucoup Léa pour ce témoignage. Et pour avoir porté la voix de ton amoureux. C'est une très belle histoire. C'est très émouvant, j'avoue, j'en ai les larmes aux yeux. Donc, écoute, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. C'est dur de conclure comme ça, mais merci beaucoup à toutes les trois. C'était super de vous avoir sur ce plateau de Popol aujourd'hui. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
Hey, marketers, Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.